Tout à l'heure terminé sur la question de la pose. Évidemment, ce n'est pas terminé, on va dire. Après, on peut se poser beaucoup de questions sur ce que c'est qu'un apôtre. Fondamentalement, vous le savez, c'est un envoyé, un mot correspondant en hébreu, chaliar, en grec, apostolos, du verbe envoyer. C'est un envoyé. Et toute la question qui s'est posée pour Paul, c'est de savoir par qui il était envoyé. Ses adversaires, c'est manifeste dans la lettre aux Galates, ne reconnaissaient pas son envoi par Dieu directement. C'est vrai que c'est toujours une réalité difficile à attester. Eux se disaient envoyés, mais envoyés par les autorités de Jérusalem. Il y a donc controverse sur la question de l'authenticité de l'envoi. C'est une réalité qui se posait à l'époque, comme elle se pose encore aujourd'hui. Toute la question des prophètes, qui t'a envoyé ? Il faut en réalité à la fois une attestation humaine et une attestation divine. Qui t'a envoyé chez nous ? La question peut se poser pour l'accueil des candidats à la vie religieuse. J'ai été maître des novices et maître des étudiants pendant de longues années à Toulouse. Donc c'est la question que je me demandais, que je me posais vis-à-vis des candidats. Qui t'a envoyé? Dieu peut-être, mais encore faut-il qu'il y ait aussi une réalité, une attestation qui se vérifie humainement. Vous voyez? Donc c'est une question très vaste. Enfin, c'est toute cette question de l'envoi, et donc finalement de l'apôtre. Donc ici, à travers Saint Paul et ce début de la première lettre aux Corinthiens, nous percevons déjà toute une question très complexe qui n'a pas de solution évidente. Et en tout cas, qui était la préoccupation première de Paul, et je vous le disais, pour asseoir son autorité. Autorité donc contestée. Alors après, il dira aussi, l'attestation de mon autorité, c'est pas seulement le fait que je suis envoyé, c'est aussi le fait que j'ai fondé des communautés qui existent, et qui résistent au fil du temps. Donc il y a tout ça derrière ce Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et Sosthène le frère, à l'église de Dieu établie à Corinthe. Vous remarquez que la communauté à laquelle Paul écrit est définie non seulement comme une communauté, comme un rassemblement, mais comme une église. Une église, celle qui est à Corinthe. Il semble donc que Paul perçoive d'abord l'église comme une réalité locale. Certains commentateurs assurent que c'est la compréhension normale de l'église par Paul. Cette réalité locale, je n'en suis pas si sûr. En Galates 6, il est aussi question de l'Église de Dieu de manière plus générale. Et il n'est pas impossible que Paul ait déjà une autre vision de l'Église, celle de l'Église universelle qui se manifeste en certains lieux. Mais vous voyez, une réalité plus haute que simplement une Église, une communion de gens locaux. Mais c'est vrai qu'ici, il écrit à l'Église de Dieu établie à Corinthe. Cette Église est composée de ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, de ceux qui sont appelés à être saints. Il y a ici une insistance sur la sainteté, parce que Paul, effectivement, retrouve le sens premier du mot église, qui est celle de... Vous savez que église, ecclésia en grec, vient du verbe grec kaleo, qui veut dire appeler. Donc l'église, c'est d'abord la communauté de ceux qui sont appelés. C'est très important, et ça il faut toujours regarder très précieusement. Ce n'est pas la communauté des parfaits. La perfection, elle est en chemin. Elle n'est pas au départ. Elle est peut-être à l'arrivée, bien heureux. Mais c'est d'abord une convocation. Selon d'ailleurs la tradition la plus ancienne, qui est attestée aussi dans l'Ancien Testament. Il y a deux mots, plus ou moins pour dire le rassemblement de la communauté dans l'Ancien Testament. Il y en a un, kahal, qui veut dire aussi appelé. Donc là, Paul n'ignore pas spécialement. L'Église, c'est la communauté de ceux qui sont appelés. C'est très important parce que, évidemment, toujours après, il faut savoir, justement, la question, c'est qui est appelé, comment vérifie-t-on l'appel ? Je dis ça parce que dans l'histoire dominicaine, vous savez qu'il y avait un Saint Dominique qui s'est opposé au XIIIe siècle à un certain nombre de gens qui, les cathares, qui se disaient eux-mêmes appelés. Alors l'appel, c'est l'appel à la sainteté. Et donc Paul y insiste en ajoutant ici, ce qui est assez singulier, parce que généralement il est appelé à être saint, ça lui suffit pour évoquer les membres de cette assemblée. Ici il ajoute ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus. Pas simplement appelés à être saints, ils ont été sanctifiés dans le Christ Jésus. Qu'est-ce que ça peut ajouter cela ? Ça ajoute quelque chose, parce que autrement, il aurait dit simplement appelé à être saint. Mais il ajoute sanctifiés, qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus. Peut-être y a-t-il ici déjà une allusion, une référence au baptême. Alors cette question baptismale, vous savez qu'elle va être la première question que Paul va aborder ensuite dans cette première lettre aux Corinthiens. Qu'est-ce que le baptême? Quel rôle jouent les baptiseurs? Pourquoi baptise-t-on? Qu'est-ce que Paul était appelé à faire? Donc cette insistance, encore une fois je le dis, parce que Paul dit simplement normalement appelé à être saint. Ici il est appelé à être saint, mais il est ceux qui ont été sanctifiés avec déjà un baptême. Donc il y a peut-être ici une référence au fait que ils sont appelés, mais en plus cet appel a été concrétisé dans le baptême. Auquel cas nous aurions ici une anticipation de la discussion qui va arriver ensuite. Je vous le disais, les introductions de Paul sont bien composées. Donc, je ne m'étonne pas si, d'une certaine manière, il évoque déjà indirectement le baptême qui va être débattu ensuite. Mais alors, remarquez comment ils sont appelés à être saints. Là aussi, c'est un peu singulier, Paul insiste. Ils sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le leur et le nôtre. Il faut bien entendre ça. Toutes les résonances. On n'est pas saint tout seul, pour le dire déjà brutalement. On est saint avec les autres appelés, et non seulement ceux qui sont appelés et qui sont autour de moi dans la même communauté, mais appelés aussi avec tous ceux qui invoquent. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même une dimension, à mon avis, pas simplement locale de l'Église. Il y a une dimension déjà, une perception déjà plus universelle qu'on ne le dit souvent de l'Église chez Paul ici. Donc avec tous ceux, voilà comment je vais grandir en sainteté. Et vous voyez bien que, implicitement, à travers ce « avec tous ceux », se profile l'idée de communion dont je vous ai déjà parlé, et qui va être absolument essentielle dans toute la lettre. Donc on est appelé à la sainteté avec ceux qui sont autour de moi, mais avec ceux qui sont en plus loin de moi. Dès lors, ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce Christ, il est notre Seigneur, le leur et le nôtre. Très manifestement, encore une fois, Paul souligne ici l'idée de communion et d'unité. C'est d'une certaine manière, quand il dit ici, c'est le même Christ, qu'il soit invoqué là ou qu'il soit invoqué ici. Et donc, insistance sur la dimension, encore une fois, je vous le dis d'une autre manière, à travers cette expression, le leur et le nôtre, qui est aussi assez singulière. Une insistance sur la nécessité de l'unité et de la communion. On est à peu près sûr, après, vous voyez, on n'en est que au combien de versets ? Au deuxième verset, on est à peu près sûr que la question de l'unité et de la communion est centrale. Et Paul va y revenir de plusieurs manières, à travers toutes les solutions qu'il prétend apporter au conflit qui se pose à Corinthe. Mais on le sait, avec cette introduction, c'est ça la question, celle de la communion. Et voyez comment je le distingue, parce que, encore une fois, il y a des choses qui sont communes à toutes les lettres. Des expressions qui sont communes à toutes les lettres. Elles sont intéressantes en elles-mêmes, mais évidemment, elles sont aussi intéressantes celles qui ne sont pas communes à toutes les lettres. Parce que celles-là vont spécifier les problèmes qui sont propres à Corinthe. Quand Paul dit, Paul appelait être apôtre de Jésus, c'est une question qu'on restait, mais c'est une question qui coïncide dans toutes les lettres. Ce n'est pas spécifique à Corinthe. Quand il dit, à ceux qui ont été sanctifiés avec Jésus, le secret Jésus qui est invoqué en tout lieu et qui est leur Seigneur et le nôtre, ça c'est spécifique à la première lettre aux Corinthiens. Ce n'est pas la manière dont il s'exprime ailleurs dans les introductions. Donc ça veut dire que là, il met le doigt sur des choses spécifiques à cette communauté. En revanche, quand au verset 3, il dit, à vous, grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas là de spécificité. Si vous regardez d'autres lettres, d'autres introductions, vous retrouvez cette forme, qui est une forme de salutation assez classique. La salutation classique de l'ange qui apparaît à Marie, réjouis-toi, pleine de grâce. Bon, ça c'est la manière aussi dont on s'exprimait dans les lettres. Grâce et paix, ce sont deux dimensions que Paul évoque traditionnellement au début de ses lettres. Il reste, et on va le voir immédiatement, que Paul va donner au début de ses lettres aussi mettre une insistance particulière sur ce thème de la grâce. On le retrouve habituellement chez Paul dans les lettres, mais là, il retrouve une dimension particulière. La preuve, alors qu'il nous a dit « grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ », salutation classique, on trouve aussitôt après « je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu ». Insistance sur la dimension de grâce. C'est dans cette première lettre aux Corinthiens qu'à un moment il dira « qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» La grâce, vous savez que c'est l'un des mots-clés de la théologie de l'apôtre. 30 ans pour un Romain, une quinzaine en 1 Corinthien, 12 en 2 Corinthiens pour le mot même « grâce ». C'est un mot-clé de la théologie de l'apôtre. Je crois d'abord et avant tout parce que c'est un mot-clé de l'expérience vécue par Paul. Oui, 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 oui. Non, il dira plus loin, je... Non, 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 non. C'est ce que je dis, il faut des attestations, il faut des reconnaissances. C'est vrai que Paul n'en donne pas beaucoup, des signes de reconnaissance. Il dira, c'est vrai, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a les communautés que j'ai fondées, mais vous savez que c'est sans doute pour cela, je ne l'ai pas évoqué avant d'évoquer la chronologie, mais c'est sans doute pour cela que, avant d'avoir vraiment commencé son ministère de prédication, avant d'être parti sur les routes, il rappellera en Galates qu'il est monté à Jérusalem. Il nous dira que dans cette première visite, Galates 1, 18, il n'a vu que Pierre, Jacques et Jean. Et il dira un peu plus loin, lors de la deuxième visite, en Galates 2, semble-t-il, en tout cas il évoque à propos de la deuxième visite, que là ils se sont mis d'accord, il y a eu un accord, pour, j'allais dire, un peu la répartition du champ apostolique. Vous savez, Paul irait à l'incirconcision, Pierre aux circoncis. Et ils nous ont tendu la main. Bon. Beaucoup de commentateurs, dont je suis, je l'avoue, pensent que cet accord, que Paul évoque uniquement dans Galates lors de la seconde visite, lors de son second passage à Jérusalem, il est passé à Jérusalem en 37, il est repassé en 52. Il y a beaucoup de commentateurs dont je suis pensent que cet accord, même s'il n'est évoqué qu'à l'occasion du deuxième passage, date déjà du premier. De fait, j'ai du mal à penser que Paul ait entrepris une grande virée apostolique sous son propre chapeau. Même si, encore une fois, il était persuadé d'être envoyé par Dieu. En outre, là, tout le monde ne prétend pas la même chose, en outre, je pense que nous avons un grand manque dans le Nouveau Testament. Le grand manque, je veux dire, c'est que nous avons un commentateur et un biographe de Paul, à savoir Saint Luc, comme étant un grand voyageur qui a évangélisé le monde entier, etc., etc. Il nous manque un biographe de Pierre, parce que je reste tout à fait persuadé que si, à l'occasion de cet accord, Paul nous révèle que lui s'est tourné vers l'incirconcision et que Pierre s'est tourné vers les circoncis, alors, au moment où il nous révèle cela, que Jacques est déjà l'autorité suprême à Jérusalem, pour moi, c'est le signe que Pierre a déjà commencé, et sans doute depuis longtemps, lui-même, une entreprise d'évangélisation vers les circoncis, vers les juifs, pour le dire simplement. Et c'est pour ça que je dis qu'on connaît Paul comme grand voyageur, comme ayant évangélisé, etc. On nous parle peu de Pierre. Vous savez, Pierre, dans les Actes des Apôtres, tout à coup, il disparaît, il ouvre le champ de la prédication tous azimuts à Paul, et puis il est allégué de la scène. Hein. Il a joué son rôle. Bon, c'est parce que Luc voulait parler de Paul, il ne voulait pas spécialement parler de Pierre, sinon simplement pour montrer que Pierre avait donné sa caution, sa garantie à la mission paulinienne. Mais je suis tout à fait persuadé que Pierre lui-même a entrepris une grande mission aussi d'évangélisation. Et c'est pour ça d'ailleurs que Paul le trouve sur son chemin à Antioche, comme c'est rapporté dans la lettre aux Galates au chapitre 2, où là il s'oppose là. Mais Pierre n'aurait eu aucune raison d'être là s'il n'avait pas lui-même eu aussi une activité missionnaire. Donc cette activité, je vous dis, on n'en a pas spécialement l'écho. On voit Pierre, nous, surtout, comme l'apôtre, le proche de Jésus, qui a plein d'élan, qui ensuite est chef de l'église. Mais vous allez voir que dans les Actes des Apôtres, le chef de l'église, très vite, c'est Jacques, à Jérusalem. Et Pierre, il disparaît. Il ne disparaît pas tout à fait. En fait, si vous regardez, en chapitre 14, il est aussi présent. Bon, mais enfin, voilà, il a une portion congrue. Non, il a certainement, à mon avis, une mission, et je vais même aller plus loin. C'est mon opinion et je la partage. Je pense probable, pour ma part, que Pierre a fondé l'église de Rome. Et il manifeste quand Paul écrit la lettre aux Romains que la communauté de Rome, ça tous les commentateurs en sont d'accord, a une origine judéo-chrétienne, et puis ensuite, du fait des expulsions dont il était question en Actes 18, il y a eu la majorité s'est inversée, elle était judéo-chrétienne, elle est devenue pagano-chrétienne, et Paul écrit à ce moment-là, parce qu'il y a des judéo-chrétiens qui reviennent, il y a des gros problèmes d'harmonie entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Donc la communauté est d'origine judéo-chrétienne, ça alors là c'est une banalité de le dire, beaucoup le pensent, à propos de la lettre aux Romains, et Paul en chapitre 15, verset 20 de la lettre aux Romains dit « Je n'ai pas l'habitude de construire sur des fondations que d'autres ont posées ». Avec une espèce de, vous voyez, de grande précaution, de grande révérence, enfin on sent que Romains 15, 20. Et donc je pense que celui qui a posé les fondations, quand Paul écrit, et c'est pour ça qu'il écrit Salva Reverentia, c'est Pierre. Bon, mais ça par contre, c'est une révélation particulière que j'ai eue un jour, je ne sais plus. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, hein, c'est une révélation particulière. D'accord. Mais je pense qu'elle a quand même quelques justifications. Mais évidemment, encore une fois, il faut estimer que Pierre a entrepris une grande entreprise missionnaire lui-même, allant assez loin. Quelqu'un l'a écrit depuis longtemps, hein. Moi même si je reprends des choses, je leur donne d'autres, peut-être d'autres appuis, mais ce n'est pas nécessairement nouveau ce que je raconte. Il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage sur Pierre, qui s'appelle Oscar Kuhlmann, il est mort depuis fort longtemps, c'est un enseignant en théologie à protestant, Kuhlmann, oui, c'est protestant, je crois, si je ne me trompe pas. Oscar Kuhlmann, il a lancé la faculté de théologie protestante de Strasbourg, et puis il a écrit un livre qui s'appelle Pierre, disciple, apôtre, martyr. Alors c'est peut-être et martyr, je ne sais plus. Pierre, disciple, apôtre et martyr, ça peut être. C'est paru en 1954, je crois, quelque chose comme ça, cet ouvrage. Peut-être avez-vous chez vous, dans la bibliothèque, je ne sais pas, c'est un vieux ouvrage, mais c'est assez intéressant. Et en tout cas, il développe justement à un moment cette dimension très apostolique de Pierre. Donc, je reviens à la question, donc Paul a d'emblée quand même cherché à établir les fondements d'une communion avec les autorités de Jérusalem, et je vous dis sans doute avant son premier voyage missionnaire. C'est discuté là aussi, mais enfin bon, il faut prendre des positions de temps en temps. Il a cherché à marquer la communion d'une autre manière, on y reviendra, c'est à propos de la collecte. En 1 Corinthiens 16, je vous l'avais fait remarquer hier, il est question d'une collecte, dont il sera de nouveau question dans la deuxième aux Corinthiens, c'est toujours avec cette idée de marquer la communion avec les autorités de Jérusalem. Donc on peut dire que Paul a toujours cette préoccupation justement quand même pour fonder son autorité, pas simplement comme ayant été effectivement l'objet d'une... ayant reçu une révélation à Damas qu'on était obligé de croire, et que d'ailleurs beaucoup contestaient, mais pour en même temps justifier, enfin donner un peu des garanties à son apostolat. Donc je reviens sur cette question de la grâce, et je vous disais que la grâce était un mot clé de l'apôtre, parce que c'était d'abord une expérience vécue par Paul sur le chemin de Damas. À chaque fois que Paul évoque cette rencontre à Damas, il évoque cette dimension de gratuité, d'inattendu, et même, il dira, tellement contraire à tout ce qu'on pouvait imaginer, puisqu'il était le persécuteur de l'Église. Donc il était celui à qui il n'avait aucune prédisposition à accueillir cette révélation. Et il y a une expression sur laquelle on passe facilement, mais que, quand on connaît Paul, on finit par repérer, et qui évoque, à mon avis, précisément cette rencontre de Damas, c'est l'expression suivante, la grâce, entre parenthèses de Dieu éventuellement, mais pas toujours marquée, la grâce qui m'a été confiée, ou qui m'a été faite, ou qui m'a été donnée, la grâce qui m'a été donnée. Quand vous avez encore rencontré dans votre lecture de Paul cette expression, la grâce qui m'a été donnée, il y a toujours par-dessous, à mon sens, cette évocation indirecte, évidemment, mais non moins réelle, de la rencontre de Damas. Donc Paul fait là l'expérience de l'inattendu, de l'inouï de Dieu. Et il en parle donc spontanément en termes de grâce. Ce n'est pas simplement une expérience personnelle, ce n'est pas la seule raison pour laquelle il emploie le terme grâce. Ce n'est pas simplement à chaque fois pour faire référence à cette expérience de Damas. Il le fait parce que ce terme de grâce, il découvre que c'est un terme qui décrit profondément la réalité proche de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Voilà. C'est une expérience qu'il a faite, certes, donc c'est peut-être ça qui a été le moteur de son emploi du mot au départ, mais c'est surtout pour lui, autrement, sa dimension personnelle n'est pas toujours très prégnante chez Paul, c'est surtout une réalité profondément théologique. Autrement dit, qui décrit profondément l'action de Dieu. Vous en avez une illustration au chapitre 5 de la lettre aux Romains, quand il dit combien plus nous serons sauvés alors qu'il y a eu Adam pécheur, etc. Combien plus. Et il parle à ce moment-là, l'expression grâce à plusieurs reprises. Eh bien, vous voyez, dans cette idée de grâce, il y a cette idée d'un Dieu qui donne sans compter et sans justification chez celui qui les reçoit. Donc l'un des passages, très beau passage d'ailleurs, qui utilise des procédés littéraires profondément juifs, le a fortiori combien plus. C'est un procédé littéraire qu'on retrouve ailleurs en judaïsme, un nom en hébreu, je vous le passe. Donc, voyez Romains 5, c'est un très beau passage sur la dimension profonde de Dieu qui est un Dieu de grâce. Donc, c'est l'expérience qu'il a faite, mais c'est pas seulement l'expérience qu'il a faite, c'est l'expérience que tout un chacun est appelé à faire dès lors qu'il rencontre Dieu. Et donc, c'est l'expérience que doivent faire aussi les Corinthiens. Et Paul évoque ici la grâce qui vous a été accordée dans le Christ Jésus. À quel moment? Peut-être comme Paul, lors de l'appel. Je vous dis, la grâce qui vous a été donnée, qui vous a été accordée, c'est, chez Paul, ça renvoie d'abord à l'appel de Damas. Mais chez les chrétiens de Corinthe, cette grâce, elle s'expérimente donc lors de l'appel par Dieu, et en particulier, évidemment, elle se concrétise dans le baptême. Donc à travers aussi cette expression « la grâce qui vous a été accordée », il y a peut-être de nouveau une référence implicite au baptême. Je trouve là, dans mes notes, si vous les voulez, des références à cette expression « la grâce qui m'a été donnée », qu'on trouve chez Paul, je vous le disais. Ça se trouve, par exemple, vous la trouverez en Romains 12, 3, en Romains 15, 15, en 1 Corinthiens 3, 10, en Galates 2, 9. Oui, c'est pour montrer que c'est vraiment une expression forgée par Paul, et qu'on retrouve ici. Je vous le disais, la dimension essentielle de la grâce, c'est justement sa gratuité, et du coup sa surabondance. Je n'ai pas besoin de faire référence à certains passages des évangiles qui disent « donner », etc., avec cette idée de surabondance. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, etc. Et vous avez toute une réflexion sur la surabondance divine, à l'image de laquelle nous devons agir. Et bien ici, aussitôt après, on vient montrer que c'est bien ça qui est au cœur de ce thème de la grâce. Paul nous dit, verset 5, « Car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science. Vous avez été comblés. » Je n'ai pas, j'ai dit, je suis venu sans ma Bible, mon Nouveau Testament. Il faudrait que je vienne avec mon ordinateur pour avoir le Nouveau Testament en grec. Bon, je suis venu sans. Parce que je suis parti depuis longtemps, il faut être changé. Donc je ne sais pas quel est le mot qu'il y a derrière, comblé ici, je ne l'ai pas noté. Peu importe. Il y a donc fondamentalement cette idée de plénitude. Et Paul insiste, cette plénitude, c'est celle de toutes les richesses. Ça, c'est très important. Et on pressent de nouveau un autre thème qui va être apporté et qui va être traité dans la lettre, c'est celui des dons de Dieu. Thème extrêmement important à Corinthe. On parlait tout à l'heure de la manière d'être reconnu dans son activité. À Corinthe, comme à Athènes, pensez à Actes chapitre 17, pour la manière dont les choses se passent à Athènes. Vous savez, dans ces villes grecques, il y avait une agora, enfin une espèce de lieu public, dans lequel en particulier se trouvent des prédicateurs de tout genre. Donc en Actes 17, c'est ça qu'on nous rapporte, ce qui se passe toujours, vous savez, du côté de Hyde Park, à Londres. Il y a toujours des gens qui amènent une caisse, ils montent sur la caisse, ils commencent à parler aux gens qui veulent bien les écouter. Voilà. Alors il y en a qui ne veulent pas les écouter, il y en a qui veulent bien les écouter. Bon, il y a toutes sortes de gens. Voilà. Donc, je dis ça parce que de fait, ça se pratique, on voit plus certainement. Je ne sais pas, enfin, moi je l'avais vu quand il y a fort longtemps que j'étais allé à Londres. Bon, il y a toujours ce genre de choses. Alors, comment on reconnaissait la qualité du prédicateur, c'est celui qui faisait, comme aujourd'hui, souvent aussi dans certains barreaux, c'est ceux qui font le plus d'effets, qui en rajoutent le plus, qui manifestent le plus de dons, qui sont capables de marcher sur les mains alors que les autres ne savent pas le faire, etc. Il faut manifester ses dons. Et évidemment, donc dans ce monde, c'est un peu le monde de l'apparence, il faut donc effectivement manifester le plus de dons possible. Et la qualité du prédicateur se mesure à sa capacité éventuellement thaumaturgique, enfin de faire des guérisons, de faire des choses assez extraordinaires. Donc c'est quelque chose comme ça qui devait exister à Corinthe. Évidemment, du coup, ça laisse dans l'ombre ceux qui n'ont pas grand-chose pour eux, a priori. Du moins dans l'ordre de l'apparence. Et Paul donc il insiste ici, vous avez été comblés en lui de toutes les richesses. Vous voyez bien comment il essaye d'expliquer que ce n'est pas tellement l'apparence qui compte, c'est cette richesse qui est donnée par Dieu. Vous avez été comblés en lui, par le Christ. Vous imaginez du coup que l'une des questions qui se pose à Corinthe, c'est la question, qu'est-ce que c'est que les dons? Qu'est-ce qui est don de Dieu? De quoi avons-nous besoin? De quoi suis-je riche? Eh bien vous l'avez là, la question, elle sera traitée. Dans les chapitres 12 et 13, c'est la première aux Corinthiens, les fameux charismata, les dons de l'esprit. Paul dit d'emblée aux Corinthiens, ne vous préoccupez pas de ce que semblent avoir les autres, vous avez déjà tout. Et il insiste, vous avez tout dans l'ordre de la parole et dans l'ordre de la science. Dans l'ordre de la parole, c'est très important parce que Je vous ai dit, ces prédicateurs publics, ils se faisaient sa valeur en particulier par leur langage, la qualité oratoire. Bon, alors Paul dira, c'est pas ça qui compte. D'ailleurs, moi, je suis nul. Il le dira plus loin. C'était un peu exagéré. Mais c'est pour enfoncer le clou. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il dira plus tard que les femmes se taisent dans les assemblées. En Romains, toujours en 1 Corinthiens 14, 33. Parce que c'est un verset dont je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment attribuable à Paul. Mais en tout cas, donc voilà, il y a toute cette question de la parole. Alors les gens, évidemment, étaient très marqués par la qualité oratoire. On l'est encore aujourd'hui très souvent. Ça peut être un artifice. Ça peut être une réalité importante, ça peut être un artifice. Donc toutes celles de la parole et toutes celles de la science. Paul dit plus loin, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Est-ce que Paul oppose la parole et la science ou la connaissance? Certainement pas. Mais ce qu'il sait, ce qu'il a expérimenté, c'est qu'il existe des discours creux, des discours qui n'édifient pas. Et donc, par rapport à ce discours-là, Paul dit, je suis nul. Je ne suis pas venu annoncer le témoignage de Dieu avec le prestige de la parole et de la sagesse, en 1 Corinthiens 2, 1. Je ne suis qu'un profane en fait d'éloquence, en 2 Corinthiens 11, 6. La vraie sagesse, la vraie parole, la parole qui enrichit, la parole qui édifie, la parole de connaissance, c'est celle qui est dite sous la motion de l'esprit, sous la conduite de l'esprit. 1 Corinthiens 2, 13. Nous parlons non pas dans des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Je vais m'arrêter là. Mais vous voyez que nous avons fait à peine trois versets, et que c'est extrêmement riche, et que d'une certaine manière, déjà tout ce que vient ensuite s'annonce. Oui.